À mon école, il y a deux Arabes. Ils s'appellent Omar et Mohamed. Et on est arabe en secret. On est des Arabes et on s'appelle à nos prénoms arabes.
Et pourquoi? Ça veut dire quoi que vous êtes des Arabes en secret?
C'est parce qu'on veut pas que les autres ils le sachent et on se retrouve en secret tous les trois pour dire des choses arabes.
Et pourquoi vous voulez pas que les autres le sachent?
Parce que tout le monde croit qu'on est des Français.
Ah oui?
Oui.
Et du coup, vous vous retrouvez entre vous pour vous souvenir que vous êtes arabe?
Oui, tous les jours, sauf les vacances.
Et t'aimes bien?
Oui, okay. C'est trop bien.
On n'a pas le même vécu, pas la même peine, pas la même vie, non, pas la même haine. 9-3, on ne vient pas du même game, marocaine de Ketama, on ne fait pas la même merde.
La seule façon de combattre le racisme, la xénophobie, c'est de remettre la mémoire en place et de dire aux gens, voilà ce qu'il y a, ce qui existe.
L'histoire est racontée par une bande de mythos.
Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute. Un pays sans justice est un pays en danger. La France est aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités et doit nous donner en tout cas ce qui nous est dû, qui est le droit et la justice. Et si on l'a pas, on ira la chercher. S'il faut qu'on on soulève le peuple, le pays, on le fera.
C'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh, c'est ma vie, allez wesh, c'est nos vies, allez wesh.
Salam à tous et à toutes et bonne rentrée, ou bonsoir républicain comme on dit. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 dans l'émission La vie des nôtres, c'est la rentrée. Et on repart pour un tour, une nouvelle saison, qui cette année sera bien plus articulée dans les différents épisodes qu'on vous a concoctés. Pour une fois, on a un peu tout prévu à l'avance, autour de portraits, du coup, comme l'émission le voulait au début, à sa conception, et comme on l'avait pensé, on l'avait appelé La vie des nôtres, parce qu'on voulait justement faire des portraits des nôtres, de personnes qui nous touchent, qui nous traversent, des parcours qui nous ont marqués, des histoires qui résonnaient avec les nôtres, et puis voilà. Et du coup, ce soir, on se retrouve pour la première émission, pardon je bégaye, j'ai un peu le stress comme des premières fois, pour écouter un portrait réalisé sur Saïd Bouamama. Je laisse mon camarade présenter Le Petit Prince de la sociologie.
Et oui, du coup, ce soir, on commence la rentrée avec un portrait de Saïd Bouamama, qui, pour ceux et celles qui le connaissent pas, qui est un militant historique des luttes de l'immigration en France et qui est aussi un sociologue sur les questions de racisme et sur les questions de lutte de l'immigration. Et voilà, c'est quelqu'un qui a su allier en fait ses recherches et son militantisme. Et qui a su mettre ses recherches au service des luttes, de la mémoire et de la transmission. Et comme vous allez le voir à travers cet entretien, il s'est prêté au jeu de nous parler de son parcours. Voilà, on n'en dit pas plus, on vous laisse découvrir et on revient dessus après. Bonne écoute.
Moi, je fais partie d'une génération un peu particulière qui est à l'intersection de l'immigration de l'époque coloniale et de l'immigration de l'époque d'après la colonisation. Je suis arrivé en France dans une histoire familiale particulière, puisque mon père était un des militants, un des cadres du FLN en Algérie, et ma mère aussi, mais ma mère du côté des femmes, puisqu'il y avait une division sexuée du travail militant. Et tous les deux étaient, et surtout mon père, étaient grillés. Et à l'époque, paradoxalement, un militant indépendantiste grillé était plus en sécurité en France qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, il risquait d'être tué. Ici, il fallait prendre un peu plus de forme. Et donc, lui, comme d'autres, la décision a été prise de les exfiltrer, c'est-à-dire de leur demander de venir en France, pour d'une part les protéger, et d'autre part, leur demander de mener le travail indépendantiste dans l'immigration. Donc moi, je suis arrivé en pleine guerre d'Algérie, en 1958, tout petit. Mais mes premières années, jusque, on va dire, les débuts de l'adolescence, sont marquées par une socialisation familiale très centrée sur l'anticolonialisme, puisque j'avais des parents militants, très centrés sur les horreurs qu'a fait la France en Algérie. Et je vais hériter de cela un certain nombre de questions, d'intérêts, de vigilance, qui vont m'amener assez tôt à m'intéresser, sans que ça soit automatique, mais à m'intéresser à un certain nombre de questions. Je grandis dans une famille ouvrière. Mon père est, comme la plupart des immigrés, un ouvrier sans qualification. Donc on les appelait, entre enfants, on appelait nos parents les gladiateurs, puisqu'ils avaient les travaux les plus durs. Et c'était un terme sympathique dans notre bouche. Dans un quartier populaire, à l'époque où les quartiers populaires étaient constitués d'un patchwork de l'immigration, ça n'est qu'après qu'on va avoir des spécialisations de quartier par couleur ou par origine. À l'époque, moi j'ai grandi avec des Italiens, des Portugais, et des quartiers populaires dans lesquels il y avait une forte socialisation. C'est-à-dire, je raconte souvent, pour décrire mon adolescence, surtout en comparaison avec des adolescents aujourd'hui, que le lundi, j'allais aux jeunesses communistes, parce qu'il y avait des filles, et du cacao, et donc on pouvait avoir chaud et rencontrer des gens. Que le mardi, même si c'était pas très cohérent idéologiquement, ben, on allait à la solidarité protestante, parce que c'était chaud, parce qu'il y avait du cacao et parce qu'il y avait des filles. Le mercredi, on allait aux jeunesses ouvrières chrétiennes, dans le même quartier, dans le même espace. Il y avait toute une série d'organisations populaires, parce que c'était dans la classe ouvrière, d'organisations populaires, et qui, dans lesquelles il y avait de la discussion, il y avait des rencontres, etc. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, je ne me pose pas de questions sur mon avenir. Je suis persuadé que si je travaille bien à l'école, bah, ça va marcher. On est dans ce mythe que c'est une question de travail individuel et que ça va fonctionner comme cela. Le premier moment d'interrogation forte, il va naître autour de mes 14 ans, lorsqu'arrivent dans le quartier des militants d'extrême gauche. C'était les maoïstes à l'époque, puisque c'était eux qui étaient qui allaient vers les quartiers populaires. Et ils arrivent en amenant des tracts, des brochures, en prenant la parole dans la rue, et en nous disant « vous êtes exploités, on méprise vos parents », et on voit des gens d'un certain âge arriver comme ça, et on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Pour qui s'intéressent à nous ?» Et je me souviendrai toujours d'un vieux monsieur, l'image que j'en garde, déformée sans doute par le souvenir, c'est un vieux monsieur avec une barbe blanche, me donnant un livre et me disant « tiens, va lire ça et on en reparle ». Je me souviens de ce livre, c'était « Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Je n'ai rien compris à ce livre, mais ce militant, il revient le lendemain et il me dit « t'as commencé à lire ?» Et je me dis « c'est quoi ces gens-là qui, en même temps, avec la volonté de l'envoyer balader, et en même temps attirer, quoi, eh bien... ce qui va éveiller les choses, c'est qu'ils vont commencer à nous parler de l'histoire. C'était l'époque où Mitterrand faisait ses campagnes présidentielles. Et comme beaucoup de jeunes, on se disait bah, « la droite, c'est raciste, et la gauche, ça doit être bien ». Et voilà des gens qui nous sortent des photos et des tracts, nous disant bah « non, mais Mitterrand, ils ont guillotiné pour la guerre. C'était le guillotineur pendant la guerre d'Algérie, mais Mitterrand, c'était le colonisateur ». Et moi, je rentre à la maison et je vais voir mon père, je dis « mais attends, tu... c'est quoi Mitterrand ?» Il me dit « pourquoi tu me parles de Mitterrand ?» Je dis « bah, il est de gauche, mais il y a des gens qui nous disent... » Et il me fout une baffe. « Tu ne me parles plus jamais de Mitterrand. C'est un assassin. » J'avais deux discours convergents. Et ça, ça va m'amener à vouloir m'intéresser à c'est quoi ces partis, qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Dans le même temps, comme beaucoup de jeunes de quartier populaire, bah, je m'oriente à l'époque, compte tenu des conditions d'existence, hein, c'était la misère... Moi, j'ai grandi dans une courée. Les images que je garde enfant, c'est des toilettes à l'extérieur et dans lesquelles pour aller aux toilettes, donc imaginez ce que ça veut dire pour un enfant que de sortir en pleine nuit, sortir de la maison et aller dans les toilettes dans lesquelles les trois murs sont tapissés de mouches. J'ai des souvenirs d'angoisse et de peur d'y aller, de peur de toucher le mur, etc. Ou l'hiver, il fallait aller... Donc il y avait une pompe pour toute la cour. On allait chercher l'eau dehors. Et quand c'était gelé, il fallait taper avec un pic et un marteau pour pouvoir avoir de l'eau. Et ça, quand on est enfant, ça m'arrive vraiment. Donc avec un sentiment de paria ou sentiment d'injustice. Pour moi, les HLM, ça a signifié l'accès au paradis. Hein. J'ai des images de mon premier bain, du premier bain dans la baignoire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Quand on entend certains discours sur le logement social aujourd'hui, c'est important de se souvenir de ce qu'a pu signifier. Si je vous décris tout ça, c'est que je m'orientais, comme la plupart de mes camarades, vers la petite délinquance, voilà, pour exister. Donc j'ai volé des mobilettes. Ma vie quotidienne, c'était ça. Et quand j'entends aujourd'hui certains discours sur les délinquances, la petite délinquance des jeunes de quartier populaire, ça me fait sourire parce que c'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui est complètement lié aux conditions d'existence. Et la rencontre avec ces militants d'extrême gauche, plus cet intérêt qu'ils ont éveillé sur moi, sur l'histoire, sur d'où on vient, sur ces partis qui nous apparaissaient comme antiracistes, mais qui en réalité, tous ces questionnements-là, c'était fou dans ma tête, mais tout ça, ça a fait un électrochoc et je suis passé quasiment de l'échec scolaire à l'excellence scolaire. Cette rencontre militante, elle est importante. J'en tire une première leçon, moi, y compris pour aujourd'hui, hein. C'est l'importance et la nécessité de faire rencontrer le maximum de gens dans les quartiers populaires. Et donc je me retrouve assez vite en situation de bons résultats scolaires et je n'avais pas du tout imaginé ou pensé ce que ça allait signifier au moment de l'accès au lycée et surtout à l'université, où j'étais parmi les premiers issus des quartiers à accéder à l'université. On était vraiment quelques-uns. Aujourd'hui, quand je rentre dans une fac, je suis assez content de voir que ça s'est banalisé. Mais imaginez ce que ça pouvait signifier que de se retrouver le seul d'origine maghrébine et quasiment le seul de milieu populaire. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de blancs de milieu populaire, mais ils n'étaient pas nombreux non plus. Et donc, on croisait une autre classe sociale, en réalité. On croisait les couches moyennes. Dans le même temps où nous, on devait travailler pour payer les études, eux, ils n'avaient pas à travailler. Et il y avait une espèce de schizophrénie avec à la fois une attirance vers ce nouveau milieu qui ouvrait... on était invité à des soirées, on voyait un nouveau public, de nouvelles personnes, une autre manière de faire. Et tous les jours, quand on allait à la fac... Eh bien, le retour de bâton, c'est que nous, on y arrivait fatigués parce qu'on avait travaillé la veille, parce qu'on travaillait la nuit, et qu'on les voyait tout frais. Ils avaient juste fait la soirée, fait la fête. Et donc, une schizophrénie avec à la fois une attirance et à la fois... on n'est pas du même monde, quoi. Surtout que, pour moi, le besoin viscéral de garder le lien avec le quartier, et donc... même quand j'ai pris une chambre à la fac pour me rapprocher de l'autre monde, j'avais besoin de passer tous mes week-ends dans le quartier. Et là, j'avais deux vies. C'est ce que j'ai tenté de théoriser après en appelant les rescapés. Et je pense que c'est un concept qui est toujours valable. Il y a un certain nombre de gens qui sont rescapés des processus de sélection. Et donc, ils sont quelques-uns à se faufiler... et tout l'enjeu, il est de savoir ce qu'ils ont appris, ils le mettent au service de qui ? Est-ce qu'ils le mettent au service de leur milieu social d'origine ou est-ce qu'ils le mettent au service d'une justification du système de domination d'aujourd'hui, sachant que tout est fait pour qu'ils le mettent au service du système de domination, puisque le discours qui est tenu à la fac et qui est tenu dans les médias est un discours sur... tu as réussi parce que tu as bien bossé, toi tu as bossé. Donc ceux qui n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'ont pas bossé. Donc le mérite ne vient qu'à toi. Tu n'es surtout pas un rescapé, tu es une élite. C'est l'élitisme républicain. Hein. On a sélectionné les meilleurs et tu fais partie des meilleurs. Narcissiquement, on peut facilement aller là-dedans. Hein. Je suis un bosseur, j'ai fait des efforts et les autres ne l'ont pas fait. Et donc se retrouver en situation de rupture avec le milieu d'origine, et en situation de mépris, même vis-à-vis du milieu d'origine, avec une volonté de se distancier de ce milieu-là. Moi, je n'ai pas vécu ça, j'ai vécu au contraire cette dimension qui est de dire il faut faire attention de ne pas trahir. Ça arrive au même moment où dans les quartiers, et je crois que ça a été pour moi un événement important, où c'est l'hécatombe liée à la toxicomanie. Autrement dit, on voit arriver la drogue dans les quartiers populaires, et c'est quasiment une overdose tous les deux jours, quoi. Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée. Autrement dit, moi je vis une ascension sociale au même moment où mes amis avec qui j'ai grandi et qui n'ont pas eu accès à la fac, eux, sont en déclassement social, sont en décomposition sociale, sont en crise, en mort, etc. Et ça, je pense que ça va beaucoup jouer. Je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais quand même eu des positions militantes, mais je pense pas que j'aurais eu l'investissement militant aussi fortement. Et quand je parle de sentiment de trahison, c'était cette dimension-là. Est-ce que tu as le droit de réussir quand, y compris des gens qui étaient meilleurs que moi, je me souvenais de leurs notes en classe avant qu'il y ait cette transformation chez moi. Donc je pouvais pas me dire, si j'étais franc avec moi-même, que c'est une question d'intelligence, puisque je les ai vus avec des meilleures notes que moi, et après, ne pas sombrer. Et donc, je pense que ça a constitué mon attirance militante. J'étais à la recherche de comment agir en utilisant tout ce que j'apprenais à la fac, mais au service de mon milieu social d'origine.
Voilà, en 1974, les affaires marchent mal. Restructuration dans les industries, licenciements massifs, plus besoin des Turcs, Espagnols ou Algériens. Et ce sont donc les affaires qui détermineront de plus en plus les grands axes de la politique de l'immigration. La loi Bonnet, votée en 1980, se donne les moyens de les expulser s'ils troublent l'ordre public ou s'ils sont en situation irrégulière. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir bouleverse cette politique. Une vaste opération de régularisation commence. 130 000 sans-papiers sortent de la clandestinité. Et ceux qui n'ont pas rempli les conditions de régularisation sont traqués par la police.
À Garges-lès-Gonesse, près de Paris, une centaine de travailleurs immigrés expulsés par la Sonacotra campent depuis 3 mois au pied de leur ancien logement. Ils constituent le noyau dur d'une grève commencée il y a 4 ans et qui a touché presque tous les foyers.
Tandis que nous, pour 6 mètres carrés par rapport aux HLM, on paye à peu près 4 fois plus cher. Alors nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir un statut de locataire qui nous permet, bien sûr, de savoir qu'est-ce qu'on paye.
C'est la Sonacotra qui refuse de négocier avec le comité de résidents élu par les résidents en Assemblée Générale.
La gauche au pouvoir, c'était aussi pour des milliers d'immigrés le droit à la parole. Ils l'apprennent à Poissy, à Aulnay, où ils représentent 50% de la main-d'œuvre. Mais ils espéraient pouvoir l'exprimer par un bulletin de vote. Le candidat Mitterrand s'y était engagé. Depuis, l'extension des droits civiques aux immigrés est remis à une date ultérieure.
Ça fait 12 ans qu'on a fait une grève en peinture. Depuis 12 ans, on n'a jamais bougé. On leur donne les possibilités d'y aller plus loin. Ça doit être égalité, que ça soit immigré ou français ou n'importe quoi, ça doit être égalité parce que là, on travaille pour le même patron.
Aujourd'hui, c'est l'un des phénomènes les plus troublants sur lequel je vous propose de réfléchir. Il s'agit du racisme, le racisme qui s'est développé ces derniers mois et qui a fait...
À Bourganeuf, après les attentats qui ont visé la communauté turque, l'administration a réagi en dépêchant 15 gendarmes...
Une bombe a éclaté à la Cayolle. Un enfant est mort, un autre blessé.
C'est fini, hein ? Parce que maintenant, c'est pas les hommes, c'est les mères de famille qu'on va s'y mettre.
À Saint-Brieuc, dans les Côtes-du-Nord, tous les cafés sont restés fermés cet après-midi par solidarité avec un cafetier incarcéré pendant une semaine pour avoir tiré avec une balle en caoutchouc sur un client tunisien qui l'excède. À Guéret, dans la Creuse, le procureur de la République a inculpé 3 personnes, dont un gendarme, auteur de coups de feu contre 2 logements habités par des travailleurs turcs. Et puis dans la région parisienne, à Meudon, 3 hommes ont été incarcérés pour avoir participé à une agression au cours de laquelle un jeune maghrébin a été grièvement blessé à coups de petites haches ou de fossiles.
Hier soir, à la nuit tombée, un jeune garçon de 10 ans a été tué par balle parce qu'il faisait trop de bruit avec ses camarades. Cela s'est passé dans la cité des 4000, un ensemble qui abrite des travailleurs immigrés en grande partie.
Crime raciste la nuit dernière à bord du train Bordeaux-Toulouse. 5 légionnaires ont pris à partie, sans raison, un homme d'origine nord-africaine.
Cela ressemble beaucoup plus à de l'acharnement de type raciste.
Habib Krimsi a été jeté par la fenêtre du train Bordeaux-Vintimille.
Un légionnaire et 4 jeunes recrues ont attaqué un voyageur de 26 ans dont le seul tort était d'être algérien.
Mohamed Boufenchouch, 53 ans. Abden Bigemia, 19 ans. Yazid Rouri, 23 ans. Moussa Mezog, 19 ans. Toufiq Ouannes, 9 ans. Mohamed Rabahi, 11 ans. Massem Babadian, 12 ans. Zineb Sadi, 30 ans. Habib Grimzi, 26 ans. Entre 1982 et 1983, plus de 50 crimes et agressions racistes sont commis, visant des adolescents, parfois même des enfants.
Les immigrés, c'est eux qui sont au centre de la bataille municipale de Dreux. Elle n'est plus une simple affaire locale, mais un vrai débat national.
Pour certains, un épouvantail bien commode. Un argument électoral, comme à Dreux, en septembre dernier, aux élections partielles. Un argument qui paye. Jean-Claude Stirbois, Front National, extrême droite, 17% des voix au premier tour. Allié au deuxième tour avec l'UDF et le RPR, Jean-Claude Stirbois devient adjoint au maire.
Début aujourd'hui au parc animalier de Saint-Vrain, dans l'Essonne, de la fête bleu-blanc-rouge organisée par le Front National. Jean-Marie Le Pen et ses amis attendent, après le score remarqué de leur candidat à Dreux, M. Jean-Pierre Stirbois, que leur mouvement soit reconnu comme un parti politique à part entière dans l'opposition.
Il se trouve que une des premières, qu'à ce moment-là, on est dans la période où mûrissent les conditions de la marche pour l'égalité contre le racisme de 83. Alors qu'on dit où ça mûrit, c'est un moment de développement de l'extrême droite, c'est un moment de développement des passages à l'acte raciste, c'est un moment de développement des crimes racistes. Très tôt, sur la ville de Roubaix, on est quelques-uns à mettre en place ce qu'on a appelé à l'époque le collectif des citoyens roubaisiens et qui a se donné comme tâche la lutte contre les violences policières et contre les crimes racistes. On est dans les années 80, on est au début des années 80, donc ça fait près de 40 ans. Et quand on lit certaines strates d'aujourd'hui, certaines mobilisations d'aujourd'hui, bon, c'est des processus. Quelques mots ont changé, mais c'est exactement les mêmes situations. Et on apprend qu'un groupe de marcheurs démarre de la région lyonnaise. Très vite, dès qu'on a vu le premier tract, on s'est dit, mais on aurait pu l'écrire. Donc, c'est ça. On se retrouve dans la dynamique de la marche. Voilà comment... je vais avoir ma première grande expérience militante, à part cette fréquentation de l'extrême gauche avant, mais sinon la première expérience militante, ça va être autour de l'organisation de la marche, du parcours de la marche pour la région Nord. Et la marche va être, pour toute une génération, une véritable révélation. En réalité, la marche pour l'égalité, c'était le constat diffus, pas forcément théorisé, pas forcément complètement clair dans la tête des gens, mais les gens sentaient quelque chose. C'était le sentiment qu'ils n'étaient pas français comme les autres. On a affaire à la première, entre guillemets, génération après les indépendances. La marche, c'est 20 ans après l'indépendance d'Algérie, c'est 83, l'indépendance d'Algérie, c'est 62. C'est le moment où arrive à l'âge adulte ceux qui sont les premiers Français issus de la colonisation. Et tant qu'ils sont enfants ou adolescents, ils vivent des injustices et des inégalités, mais ils ne peuvent pas entièrement la référer à leur origine. Ça n'est que qu'au moment où ils se posent la question du logement, la question de l'emploi, la question de l'entrée dans les boîtes de loisirs, etc., qu'ils se rendent compte à ce moment-là que ils ont beau être nés français, ils ont beau avoir toujours grandi ici, avoir été à l'école ici, ils ne sont pas traités comme les autres Français. Et en gros, c'est la découverte des discriminations et c'est la découverte de du fait qu'on a une France qui prend en compte la couleur et l'origine comme facteur de discrimination. Et je pense que c'est le premier moment public collectif où la question des discriminations liées à l'origine est posée par un fait générationnel. Et je pense que c'est ce qui va faire son succès. C'est pour ça que on est passé de 15 personnes à 100 000 à Paris à l'arrivée. Et la marche, c'est surtout un moment dans lequel, dans chaque ville où ça passe, et nous, à Roubaix, c'était particulièrement parlant, à l'occasion de l'accueil des marcheurs, ont lieu 4-5 débats, donc en 2-3 jours, et c'est donc par ville, c'est donc des centaines et des centaines de jeunes qui jamais n'ont participé au débat, qui n'allaient pas au débat des autres, qui là prennent la parole et qui commencent à parler, des contrôles de police, qui commencent à parler. Et imaginez sur une ville où on se disait ça dans le couloir, ben dans les rues, etc., où d'un seul coup, maintenant, c'est dans des salles, et où, en 3 jours, ça... On va d'un quartier à l'autre et ça débat des mêmes choses et des revendications apparaissent et ça commence à parler des contrôles de police, des crimes, du logement et de comment les parents ne peuvent pas accéder au HLM, etc. Et ça va créer quasiment en l'espace de 3-4 jours, ça crée une effervescence, une ébullition. Et quand la marche est passée, très vite, ça se termine par des structurations collectives. Les gens disent, on ne peut pas se séparer comme ça, il faut qu'on s'organise. À l'époque, c'était près de 400 associations qui se sont créées en l'espace d'un mois et demi. Hein, le passage de la marche sur toute la France, c'est octobre, non, c'est pas un mois et demi, c'est 2 mois et demi, mais près de 400 associations vont naître.
Des problèmes institutionnels parce que les jeunes de la deuxième génération ne peuvent pas non plus avoir accès au logement parce qu'ils sont étrangers. Des problèmes institutionnels également par rapport à l'identité puisque tout régulièrement il faut avoir affaire à sa carte, etc., etc. Donc c'est les problèmes de la deuxième génération, si vous voulez, qui pourraient être enrichissants dans la mesure où on a deux cultures, ça pourrait être enrichissant, sont aujourd'hui accentués, si vous voulez, et ils nous repoussent dans nos retranchements systématiquement.
Le problème, c'est que nous vivions tous dans une société, que vous en acceptiez ou refusiez les règles, c'est votre problème. Et je veux dire, nous sommes, à la limite, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble.
Ouais, mais on vit ensemble, mais toi seulement, toi où tu vis? On vit pas ensemble pour l'instant. Moi, tu vis pas à Cousy, tu vis pas dans les ghettos de la misère.
Et je vis dans le même pays.
D'accord, dans le même pays, mais ça veut rien dire, le même pays. C'est dans quelle classe tu vis, toi? Toujours que les fils d'ouvriers sont toujours ouvriers. Les fils de riches, toujours riches.
Comme vous savez, Vitry, c'est une ville communiste.
Attends, là, t'oublies un truc aussi. D'accord, la gauche, ouais, mais si. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un commissariat et des zélotiers, comme si il n'y avait que cette solution. Les communistes, ils disent contre les lois anti-immigrés. Mais du fait de mettre un commissariat et des zélotiers, qu'est-ce que ça va faire, franchement? Ça va faire plus d'expulsions. C'est pas toi qui vas fleurir mes registres, tu te ramasses des coups de matraque et tout, et puis au dépôt, des bâtons dans le cul, c'est pas toi qui te ramasses ça. C'est nous qu'on se ramasse ça, c'est nous qu'on se fait écraser, qu'on se fait jeter dans les poubelles. Le commissariat, ça, tu le sais pas, ça.
J'ai été ramassé par la police?
Bien sûr.
Il y a une semaine, Tommy Jaja, le président de SOS Avenir Minguette, recevait une balle dans le ventre tirée par un policier au cours d'une altercation avec de jeunes maghrébins dans ce quartier chaud de la banlieue lyonnaise.
Marseille, le 15 octobre. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart, la longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. C'est ici, à Vénissieux, au Minguette, qu'est né ce pari insensé. Une démarche pacifique, une marche antiraciste, en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé. Et pourtant, c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence.
C'est une lutte non violente, et on découvre à quel point c'est on est plus armé qu'en étant violent.
Les jeunes, sans faire du sectarisme, les filles immigrées, la condition des filles immigrées, les revendications du droit de vote, de la carte informatisée, en fait, ça englobe toutes les revendications propres aux immigrés.
Kilomètre après kilomètre, le mouvement prend de l'ampleur. Des comités de soutien se créent un peu partout sur leur passage et le message de solidarité passe. Strasbourg, le tournant. Cette fois, ça y est, le pari est définitivement gagné. Georgina Dufoy, secrétaire d'État, se joint au cortège. C'est la reconnaissance officielle.
Le ministre de la Justice proposera
sanctions, des infractions pénales spécifiques, aux sanctions plus lourdes.
Paris, 3 décembre, 100 000 personnes entre la Bastille et Montparnasse. Les partis de gauche et d'extrême gauche sont venus parcourir les derniers kilomètres.
Et donc, d'emblée, la question qui est posée est la question de l'autonomie, puisque toutes les associations se posent la question de comment ça se fait que tous les autres partis, jamais ils n'ont parlé de nous, jamais ils ont parlé des questions qu'on soulève, etc. Et donc il y a cette question qui est de dire, mais il faut absolument qu'on ne nous vole pas nos revendications, parce que les revendications sont nées au travers de la marche. Et là, on va commencer à se confronter assez violemment et assez vite à la gauche telle qu'elle est en France. Et à l'extrême gauche telle qu'elle est en France. On va commencer à se confronter à eux. Et on va se confronter à eux dès l'année qui suit, puisqu'il y a une seconde initiative qui va se mettre en place, qui est Convergence 84, dont la symbolique, c'était les cinq grandes communautés issues de l'immigration qui partaient de cinq endroits de France différents. Donc il y avait les Portugais, les Maghrébins... il y avait les Blancs, il y avait cinq communautés, il y avait l'idée de converger sur Paris dans un grand carnaval politique. Et au cours de cette seconde initiative, on va avoir une intervention de quasiment tous les militants de gauche pour venir nous calmer, en réalité. Nos revendications devenaient trop radicales. On posait trop de questions. Ça c'est connu, hein, ça va se terminer par le discours de Farida Belroul, qui va mal tourner après, à mon avis, mais bon, en tout cas, à l'époque, qui est un discours où elle dénonce l'antiracisme moral. Ceux qui pensent que c'est nouveau, certains considèrent qu'on vient d'inventer l'antiracisme politique. Non, en 84... Le discours qui a republié, d'ailleurs, le discours final de 84, est un discours disant il y en a assez du paternalisme. On a des gens qui se disent nos amis, mais qui viennent nous demander d'abandonner nos revendications les plus radicales. On a des gens qui se disent nos amis, mais qui viennent nous donner la leçon, comme si on n'était pas capable de penser. Donc c'est bien un discours de rupture. C'est vécu comme ça, d'ailleurs. Hein, c'est une grande association à l'époque... disent qu'on est ingrat, qu'on n'est pas reconnaissant, etc. Et ça va d'ailleurs se traduire très vite par l'absence du le retrait du soutien. Autant pendant la marche, on a eu un certain nombre de grandes associations qui nous ont offert les locaux, de l'argent pour payer les bus, pour descendre à Paris, etc. Tant que c'était des petits beurs, entre guillemets, puisqu'ils nous appelaient comme ça, des petits beurs qui se bougeaient, sympathiquement ça allait, mais dès qu'on a commencé à avoir une logique propre, c'était trop. Et donc la troisième marche, donc tout le monde parle de la marche 83, ils oublient que ça a été trois marches, la troisième marche, et ben on va l'appeler Divergence 85, pour montrer qu'on était sur l'idée de construire un mouvement autonome, d'autant plus que entre la deuxième et la troisième marche, on va avoir le Parti Socialiste qui va commencer à s'inquiéter, qui est au pouvoir, hein, c'est Mitterrand, hein, qui va commencer à s'apercevoir que ça prend une ampleur nationale, que ça s'autonomise, que ça se radicalise dans les revendications. Et donc on va avoir l'opération de lancement de SOS Racisme, autrement dit un mastodonte médiatique, politico-médiatique, inventé... à l'Élysée et lancé médiatiquement par une série d'artistes. Et là, pour nous, SOS Racisme à l'époque, c'est vraiment la tentative de dévitaliser notre colère. Pour donner un exemple très concret, les revendications qu'on avait, c'était l'arrêt des contrôles au faciès, et en SOS Racisme lance comme slogan « Touche pas à mon pote ». On avait des slogans, enfin on avait des revendications sur la lutte contre les discriminations. Et on a SOS Racisme qui met en avant comme deuxième revendication « J'aime qui je veux ». Autrement dit, on passe de revendications politiques et sociales à des revendications morales, on est tous des frères, etc. Et donc, on essaye de faire passer d'un mouvement antiraciste qui se politise à un mouvement antiraciste culturel, moral, on va faire la fête. D'ailleurs, ce racisme utilise les concerts comme mode d'action, alors que nous, on dit maintenant, il n'y a plus un crime raciste sans qu'on envahisse le palais de justice. Voilà, on en était là. C'était deux dynamiques complètement opposées. Et donc, SOS Racisme, ben, paradoxalement, eh ben, il va être soutenu par quasiment toute l'extrême gauche et toute la gauche. Avec cette idée que c'est la jeunesse qui entre en action et qu'on ne va pas diviser selon la couleur, donc des débats qu'on entend sur la non-mixité, etc., encore aujourd'hui. Mais ça date de cette période-là, même si ce n'était pas les mêmes mots, mais c'était ça qui était mis en avant. Et à notre grande surprise, on va avoir quasiment pas d'alliés. Et la troisième marche, ben, beaucoup l'ont vécu comme un échec, alors que... qu'en réalité, il y avait beaucoup moins de monde, mais il y avait aussi plus d'alliés, plus de moyens. C'était en fait une tentative d'asphyxie et d'étouffement de ce mouvement autonome. Alors si je vous raconte tout ça, c'est que ça va bien entendu déterminer toute la suite de mon engagement militant, et en particulier l'idée que le vrai combat, et c'est un combat de long terme, c'est au moins trois niveaux. D'abord un mouvement national autonome, parce que la richesse, quand on a vécu la marche, c'est justement que la rencontre que les Marseillais ont eue avec les Lillois, qu'ils ont eue avec les Montpelliérains, et de s'apercevoir qu'on est dans la même communauté de sort et qu'on avait en réalité les mêmes conclusions de nos vies, etc., que c'était la même situation. Donc c'était bien au-delà de Lille ou de Marseille, c'est bien un regard porté sur ces nouveaux Français, un regard discriminant porté sur ces nouveaux Français, donc l'idée d'une communauté de destin et de sort politique. Donc ça, pour moi, c'est une première conclusion qui va déterminer tous mes engagements jusqu'à aujourd'hui, même si c'est difficile, même si on n'y arrive pas, etc. Il y a besoin de cette dynamique nationale pour peser sur le rapport de force. La seconde dimension, c'est la dimension de créer du collectif au niveau local, que le collectif est un élément important. Là aussi, c'est au moment de la marche qu'on l'a découvert. On était tous pleins de colère, mais c'est le fait qu'on soit regroupés qui a fait qu'on a eu l'impression d'aller mieux, d'avoir un nous. Et donc cette dynamique de créer des espaces collectifs était une dimension importante. C'est à ce moment-là qu'on se pose la question des locaux autonomes. On se dit il nous faut nos maisons, il nous faut nos centres sociaux, il nous faut... Tous ces débats-là sont posés, même si après se pose la question des moyens. En tout cas, c'est posé comme besoin. Et un troisième niveau qui est la question de la mémoire et de la transmission. Parce que dans la marche, on croise des gens un peu plus âgés. Et on croise des militants qui ont essayé ce qu'on essaye de faire 20 ans plus tôt. Et on s'est dit, mais putain, c'est extraordinaire qu'on ne les connaissait pas. On rencontre des gens du mouvement des travailleurs arabes. Quand ils commencent à nous parler pourquoi ils se sont constitués, comment ils se sont constitués, qu'est-ce qu'ils voulaient en se constituant, c'est des... Attends, comment la gauche a réagi à leur constitution, comment ils ont été confrontés au paternalisme. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on est en train de réinventer la roue, on reprend pas l'histoire là où ils l'avaient laissée, on reprend l'histoire là où ils l'avaient commencée. D'où cette idée, mais il y a un vrai problème, ce qui est, est-ce qu'on est capable d'avoir une expérience cumulative, c'est-à-dire où ce qu'ont fait les uns servent à ceux qui viennent après, ou est-ce qu'on va sans cesse être dans des générations qui reproduisent les mêmes situations?
Pour protester contre ces conditions, les travailleurs immigrés ont fait des grèves de la faim. Un jeune Marocain et son mouvement, le mouvement des travailleurs arabes, ont animé cette lutte.
Et bien justement, après ce mouvement qui s'est manifesté autour de la carte de travail, on commence évidemment, surtout les patrons et tout ça, ils commencent à avoir peur de cette force des travailleurs immigrés qui commence à relever la tête et refuser cette vie de soumission et d'indignité. Et alors, justement, pour empêcher les travailleurs immigrés de lutter, on a orchestré toute une campagne raciste qui, d'une part, vise à intimider les travailleurs et les empêcher de lutter, et d'autre part, à les isoler, surtout de soutien qu'ils ont pu avoir après les luttes qui sont développées sur la carte de travail ou sur d'autres revendications. Et c'est pour cela, après, on a exploité le meurtre d'un traminant à Marseille pour dire voilà que les travailleurs immigrés sont des tueurs, c'est des gens qu'on n'a pas besoin d'eux et tout ça. Et surtout pour intimider et arrêter ce mouvement des travailleurs immigrés. Or, ce qu'on a vu dans la réalité, c'est tout à fait le contraire du but que poursuivaient les racistes et derrière eux les patrons. C'est qu'on a vu Après cette campagne raciste et les meurtres et tout ça, il y a eu une grève dans les Bouches-du-Rhône, dans la région de Marseille, de plus de 40 000 travailleurs. Et après, le mouvement s'est étendu sur toute la France. Il y a eu des centaines de milliers de travailleurs qui ont fait la grève pour la première fois. C'est qu'on n'a jamais assisté à un tel mouvement.
Et là, on s'aperçoit que on a une carence d'héritage. On s'aperçoit que on a un vrai problème pour connaître... c'est pour ça que je disais que j'aimais bien le titre de votre émission. Pour connaître les nôtres. Pour connaître les militants qui avaient agi avant. Pour connaître ceux qui avaient fait des tentatives d'action culturelle auparavant, qu'on essayait nous de refaire. Et donc, cette idée de tisser un fil transgénérationnel et de transmission de l'expérience, qui est le troisième besoin... Qui pour moi va être important. Après c'est l'histoire des tentatives pour constituer cela. Ma vie militante, c'est ça après. Hein. Donc ça va donner une première forme au travers d'un mouvement qui est aujourd'hui un peu oublié. Ça s'appelait Mémoire fertile, agir pour une nouvelle citoyenneté. Donc qui était un mouvement national. On avait eu plusieurs dizaines de collectifs qui étaient constitués. Ce mouvement-là, il avait à la fois une action locale et une volonté de structuration nationale. Et ça va être après le Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Donc on est vraiment sur cette même dynamique qui date de cette période-là, qui est comment ne pas être sur une superstructure nationale qui parle dans l'abstrait sans être en lien avec le local, mais aussi comment ne pas être que dans le local, parce qu'il y a des décisions qui renvoient au système social et donc des questions de rapport de force nationale. Sur le contrôle aux faciès, on ne va pas l'obtenir à l'échelle d'une municipalité. On l'obtiendra le jour où il y aura un rapport de force capable de l'imposer au niveau national. Tenir les deux bouts, c'est pas simple, mais de toute mon histoire militante, elle tient de cette expérience de cette période-là. Quand je tire le bilan de ce qu'on a essayé de faire sur la dimension éducation populaire, transmission, etc., je classerai ce qui existe au nom de l'éducation populaire en au moins trois catégories. Et c'est la troisième qui me semble la seule pertinente. La première catégorie, c'est la mission civilisatrice. Autrement dit, un certain nombre de gens qui pensent faire de l'éducation populaire, mais qui arrivent avec l'idée que les classes et quartiers populaires, ils ne savent rien. C'est faut venir les civiliser, faut venir leur expliquer ce qui est bon pour eux. Donc ça part de l'idée que tout le monde doit accéder à la culture, mais la culture, il n'y en a qu'une, celle des classes dominantes, et qu'il faut venir expliquer aux classes populaires. Ça peut prendre des formes, y compris à gauche ou à l'extrême gauche. Hein. Par exemple, tous ceux qui considèrent que l'éducation populaire, c'est uniquement emmener les jeunes des quartiers populaires au théâtre, ou à l'opéra. Moi, je me souviendrai toujours ma prof de gauche qui a tout fait, qui s'est décarcassé pour trouver du fric pour nous emmener à l'opéra. Et nous, on arrive à l'opéra, on regarde ça, mais on se sent pas chez nous. C'est quoi ce truc? C'est quoi ces clowns? C'est quoi cette manière de... Et on se dit, mais il y a un monde. Et elle était persuadée d'avoir fait une grande action d'éducation populaire en nous emmenant là. Ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que sa manière de penser, c'est de considérer que nous, on n'a pas de culture. Et que l'éducation populaire, c'est amener la culture à ceux qui n'en ont pas. Donc ça, cette première manière, elle est assez fréquente. Même si elle ne le dit pas, elle ne se justifie pas comme ça, mais c'est le propre de beaucoup des structures existantes. La plupart des habitants des quartiers populaires, ils votent par leurs pieds. Quand il y a un truc comme ça, ils ne viennent pas. Et c'est comme ça que ce sont des gens qui sont financés, qui ont des salles, qui ont des trucs, et il n'y a personne. Il n'y a personne parce que... les gens, ils sont pas fous. Je vais leur dire, ça n'a pas de culture, et je vais t'en donner une. Je dis, dégage, j'ai ma culture, quoi. La seconde dimension, assez proche de la première, c'est la logique des instituteurs. C'est ceux qui pensent faire de l'éducation populaire sous un angle où le contenu peut être bon, mais où on vient le faire dans le sens, il y en a un qui sait et d'autres qui ne savent pas. Et donc, ça prend la forme d'un enseignement. Et puis, la troisième forme, qui est pour moi celle qui est porteuse de mobilisation, d'apport concret pour les gens, c'est de créer des espaces dans lesquels les gens s'auto-forment, s'auto-organisent, s'auto-produisent culturellement, etc. Mais c'est plus compliqué, c'est plus exigeant. Et pour moi, c'est cette troisième forme qui est une nécessité. Il y a quelques années, on a monté dans une petite ville des mines du Nord-Pas-de-Calais, où il y avait... donc c'est des corons, c'est le logement minier, dans lequel on a parqué toutes les familles qui arrivaient du Maroc, d'Algérie. Donc c'était quasiment par origine qu'il y avait des baraquements. On a mis en place ce qu'on a appelé une djemaa culturelle. Au Maghreb, avant l'arrivée des colons, les décisions se prenaient par l'assemblée du village, qui était donc un espace avec un lieu, hein, qui était la mosquée de la djemaa, où les gens se réunissaient et parlaient de tout. Ils parlaient du politique et du culturel, et c'était là que se prenaient les décisions. Donc on a créé, on a volontairement repris ce nom de djemaa, et une fois par semaine, les gens venaient, on est parti sur les anciens vont raconter aux nouveaux. Les choses ne sont pas parties immédiatement sur des choses très politiques, c'est avec le temps, c'est-à-dire que les gens ont commencé par observer avant que d'aborder d'autres questions, mais ça a commencé par des témoignages sur ce que c'était qu'immigrer dans les années 60, c'était quoi les conditions d'arrivée, donc, et après, la question de la police est apparue, et là on a eu des échanges, il y avait des moments magiques en termes de savoir populaire, hein. Le vieux de 70 ans qui raconte son contrôle au faciès dans les années 50, et les jeunes de 20 ans qui le regardent, mais c'est ce que j'ai vécu hier, quoi. Donc on est parti de cette idée que il n'y allait pas avoir un exposé de quelqu'un qui vient raconter quelque chose. On part des savoirs et des expériences des premiers concernés. Alors ça ne marche que si c'est inscrit dans la durée. Sur ce type d'expérience, c'est pas la première fois il y a 5 personnes, c'est pas la deuxième, c'est dans la durée que va se créer cette idée. Et là, il y a un espace où on n'est pas jugé, là. Il y a un espace où on se regarde dans les yeux, là. Il y a un espace où jeunes et vieux, ils se parlent, là. Et les premiers qui viennent, ils viennent d'abord pour observer. Ils viennent d'abord pour voir si c'est vraiment ça, ou si c'est du bluff pour masquer, je ne sais pas quoi, un projet financé par ailleurs, etc. Donc ça, c'est une première forme. Il y a une deuxième forme, plus classique, mais si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit jamais ça, mais je suis obligé de constater l'inverse, qui est la forme classique d'apport de contenu sur la mémoire. Moi, j'en suis arrivé à ça, alors que j'étais opposé à ça, suite à une interpellation dans la région parisienne d'un groupe de gens très jeunes. Enfin, quand je dis très jeune, ils avaient 18 ans, et ils venaient me dire, Monsieur Bouhama, nous on a lu vos bouquins, mais vous nous faites chier avec l'écrit, parce que les jeunes du quartier vont pas aller vous lire. Et donc, et puis on est au 21e siècle, maintenant il serait temps de changer. Et donc on vous propose de vous accompagner sur plusieurs de vos interventions. Il faut faire des films vidéo. Moi, j'avais jamais pensé à ça, etc. Ça va donner l'école anticoloniale, où une fois par mois, sur un thème qui est choisi par les gens, il y a quelqu'un qui prépare. Donc là, pour que la machine démarre, ça a été longtemps moins, maintenant ça s'est élargi à d'autres, et où on a été complètement ébahis et surpris de la diffusion de cela, et des effets que ça avait. C'est-à-dire que moi, je peux aligner plusieurs centaines de mails des gens qui, à l'autre bout de la France, mais aussi au Sénégal, mais aussi en Algérie, etc., qui regardaient la vidéo, au Sénégal qui s'organisent pour la regarder collectivement et débattre après de ça, et c'est à chaque fois sur des dimensions de transmission. On l'a fait sur des dimensions de figures, parce qu'on, après mon bouquin sur les figures de la révolution africaine, il y a eu un cours sur chacune des figures, donc un cours sur Ben Barka, un cours sur Lumumba, un cours sur Sankara, etc. Ça a fait un tabac, on était complètement surpris. Et puis après, on est passé à des thématiques, les violences policières, le racisme d'État, etc. Et ça, donc, c'est un autre format qui répond à un autre besoin, qui là répond à un besoin de découverte en réalité. Dans le savoir populaire, on peut créer du savoir sur ce qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas inventer le savoir qui n'a pas été transmis. Et donc ça correspond à un second besoin qui est de comment on se dote d'outils pour transmettre ce qu'ont fait les générations d'avant, etc. Ça, c'est le deuxième expérience. Une troisième expérience que j'ai eu la chance de vivre, c'est l'expérience d'être le porte-plume. La première fois, c'est une conférence que je fais et où je vois un groupe d'un certain âge, enfin, de gens âgés, tous maghrébins, au fond de la salle. C'était pas les militants habituels, donc ça se voyait, quoi. Et ils étaient là, très solennels, très bien habillés, costume, cravate. Et je termine ma conférence, les questions se posent, etc. Et ils disent rien. Pas un mot, pas une question, rien du tout. Je m'en vais pour partir, et là, ils viennent vers moi, en délégation. Et ils me disent, Monsieur Bouhama, on peut vous voir ? Ouais. Et on vous a écouté. On veut que vous nous aidiez à écrire notre histoire. Et vous êtes qui ? On est les mineurs marocains du nord de la France, l'association des mineurs du nord de la France. Ah ! Pourquoi vous pensez que je peux vous aider ? Parce que tu ne vas pas nous trahir. Donc, en fait, ça faisait plusieurs conférences où ils envoyaient un espion. Écoutez, et il faisait son rapport. Et donc, du coup, je leur dis, écoutez, avec plaisir. Et donc, on commence à se rencontrer. Et quand je dis à se rencontrer, on se rencontre. La première réunion, il y avait 200 mineurs. Alors imaginez les mineurs de fond, hein, ceux qui allaient au fond de la mine, là, tu les voyais physiquement abîmés. Et quand je leur dis, mais vous voulez raconter quoi ? Et là, ils me disent, et c'est ce type de choses qu'il faut réussir à trouver, parce que là, c'est des traces qu'il faut laisser, et ils me disent, on veut expliquer pourquoi on a pu accepter d'être des esclaves. Ça a donné naissance à toute une... Donc on s'est vu pendant 2 ans, à un rythme hyper régulier, où je n'ai servi que de porte-plume. En gros, il disait, toi tu as accès à l'écriture, nous on a quelque chose à dire, il faut que tu nous aides à l'écrire. Dans le courant du travail, un soir, je termine la réunion, et au moment de partir, il y a 2 femmes dans le couloir. Alors que j'avais vu aucune femme. Et elles me disent, il n'y a pas que les hommes qui ont des choses à dire. Et elles me disent, eux, ils vont raconter c'est quoi être mineur pour eux. Mais nous, on veut raconter c'est quoi que d'avoir un mari mineur et c'est quoi que d'être une femme de mineur, etc. Et là, je me retrouve, donc le boulot se double. Je me retrouve avec des semaines où le lundi, je suis avec les anciens mineurs et le mardi avec leurs femmes qui me racontent des choses sur ce que j'ai appelé les coûts invisibles de l'immigration. Être mineur, c'est pas seulement souffrir au fond de la mine, c'est aussi raconter. Nous, nos maris sont partis, ils étaient beaux, grands et forts. Et on arrive, ils sont malades, ils sont KO, ils sont sales, donc y compris des choses de l'intimité. Hein. Voilà pour moi un troisième besoin, comment on peut créer des espaces dans lesquels on met à disposition les outils permettant de raconter une histoire collective. Ça a donné naissance à 2 livres. Le premier livre, ça s'appelle « Du bled au coron », et qui raconte comment les mines du Nord-Pas-de-Calais sont venues au village pour les recruter, avec quels critères ? Quand tu savais lire et écrire, on ne te prenait pas parce qu'on avait peur que tu deviennes syndiqué. Donc ils savaient très bien qu'ils allaient être surexploités, etc. Et donc, être analphabète, c'était un critère de recrutement. Donc, ça s'appelle du bled au coron. Il raconte comment on les a accueillis, comment on les a parqués par nationalité, comment on les a empêchés de rencontrer les syndicats, comment les... Donc, c'est toutes ces conditions-là. Mais aussi, leur état d'esprit, pourquoi ils n'osaient pas se révolter à ce moment-là. Et le deuxième livre, donc, qui est la suite, c'est « De la tête baissée au poing levé ». Où là, ils racontent comment s'est faite leur première grève. Ils ont mené une des grèves les plus longues et les plus dures du syndicalisme, de l'histoire du syndicalisme français. Hein. Une grève de 2 mois, tout seul. Les autres mineurs ne les suivaient pas. Les syndicats ne les soutenaient pas. Ils racontent concrètement qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qui les a amenés à entrer en lutte. Par exemple, le vote de la grève, ils l'ont fait en jurant sur le Coran. Tous les mineurs ont été jurés sur le Coran, je ne céderai pas jusqu'au bout, etc. C'est tellement ils se sentaient seuls et ils avaient peur que la division interne fasse tout foirer. Et donc ils racontent ce processus de conscientisation et qu'est-ce qui les a amenés à pouvoir entrer en lutte. Cet exemple-là, il résume bien la situation particulière de la question de l'articulation classe-race en réalité. Et en réalité, trouver l'équilibre sur ce qu'a été réellement leur rapport au syndicat, qui était en réalité un rapport où il y avait des points communs et des points de désaccord. Et j'ai dû le réécrire plein de fois, parce qu'ils tenaient à ce que ça soit la réalité de ce qu'ils avaient vécu. Qui était à la fois, c'était ceux qui nous défendaient le plus, mais ils ne nous défendaient pas comme ils devraient nous défendre. Donc il fallait dire quelque chose qui était compliqué. C'est vraiment un besoin. C'est vraiment un besoin parce que ce livre sur les mineurs marocains, il pose toutes les questions que posées aujourd'hui par des collectifs, hein, qui est la question de l'alliance et de l'autonomie. C'est les mêmes questions qui sont posées, alors que là, on avait affaire à des travailleurs analphabètes, etc., mais qui vivent la même chose que un collectif de, je sais pas, d'étudiants racisés ou de femmes racisées, qui aujourd'hui vont être confrontés à la même chose d'autonomie et d'alliance s'ils mettent en place un combat ou une conférence ou un débat où ils vont avoir exactement les mêmes processus. Voilà au moins 3 formes que j'ai expérimentées qui me semblent pour moi importantes.
شي الخدمة اللوز نسخام مسافات ورز نتواليم يا شحال يرن مسلام ورث زري غردي زريم شي الخدمة اللوز نسخام مسافات ورز نتواليم يا شحال يرن مسلام ورث زري غردي زريم يسف يغورا لا دين هود الشغليس يسلغ يسف يغورا لا دين هود الشغليس يسعوق غاك الخدمة وريت مزرى ذور في قيس يسعوق غاك الخدمة وريت مزرى ذور في قيس لا عثاب بغرو مكان عقلا غنشاب ميليس سيمان رنو الدني تا ما تخدم ديان غلب غيس سي الخدمة اللوزن سخام ثافات ورث متوالي يا شحال يرنم سلام ورث زري غرثي زري يهضر ندم الدن في الناس ما تيطي ولد زرارام يهضر ندم الدن في الناس ما تيطي ولد زرارام استقسى يختن كل سد يا ودك السنام استقسى يختن كل سد يا ودك السنام عيات بيمان سطا سالي خدمي ثقرام اصبر كان قريبة ياس روح ورتخمي مرام سيل خدمة لوزن سخام ثافات ورتمتوالي يا شحال يرنم سلام ورتزري غرثي زري
Dans le mouvement anticolonial, j'ai découvert ça après, que c'était beaucoup théorisé et dans le mouvement noir états-unien, qui est que la question, la domination, ça marche avec l'invisibilisation. Et l'émancipation, ça marche avec la visibilisation. Et donc, visibiliser ce qui est invisibilisé, c'est une dimension essentielle. Par exemple, effectivement, l'immigration côté femme, c'est complètement invisibilisé. Le savoir populaire, c'est complètement invisibilisé. Et donc, cette idée de repérer ce qui est invisibilisé, de se dire qu'est-ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qu'on peut trouver comme outil pour le visibiliser, ça arme les gens. Ça leur permet, d'une part, de se sentir porteur de quelque chose et porteur d'une transmission. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. La période anticoloniale en France, c'est une période où l'immigration a été structurée. C'est-à-dire que tu avais des analphabètes qui apprenaient à écrire pour écrire des tracts. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Qui faisaient des manifs, qui faisaient des tracts, qui prenaient la parole dans les meetings, etc. Donc toute cette génération-là, qui date des années 50 et 60, elle n'a pas transmis, et le MTA n'a pas transmis. Et pourquoi ça ne s'est pas transmis? Ben, c'est parce qu'il y a cette idée que la lutte, c'est maintenant, ce qui est vrai, et donc on ne pense pas qu'on n'inscrit pas dans la durée. Chaque génération pense que son combat, voilà, c'est maintenant, etc. Et la prise de conscience que c'est un combat de long terme, c'est vraiment une dimension importante qui ne se pose pas spontanément, si ce n'est pas posé par des productions, etc., ça se pose pas spontanément. Et le résultat, c'est que les nouvelles générations, on arrive à devoir réinventer ce que les autres ont fait auparavant. Quand on regarde les autres catégories exploitées ou dominées, on est obligé de s'apercevoir que c'est à partir du moment où la question de la transmission a été prise en charge qu'on a commencé à avoir une dimension cumulative. Le mouvement ouvrier, c'est quand ils ont commencé à avoir... dans les syndicats, des instituts de recherche, de mémoire, etc. Quand il a commencé à avoir des formations qui venaient rappeler l'histoire, etc. Jusqu'à aujourd'hui, la question de la transmission n'est pas encore prise en charge collectivement. Résultat, on aurait eu un vide de transmission complet s'il n'y avait pas eu le rap. C'est-à-dire que le rap a servi, dans cette forme musicale, à rappeler quelques fondamentaux. Pas de justice, pas de paix, ça c'est un fondamental que chaque génération aurait réinventé, mais que le rap a permis de poser comme point de départ et pas comme point d'arrivée. Et donc on a toute une série de choses qui se sont transmises comme ça par le rap, et le rap a été un des derniers vecteurs de transmission du savoir populaire et de l'expérience populaire. C'est pas que le savoir, c'est aussi l'expérience, c'est ce qu'on retire de lutte. Et sans le rap, on peut se demander. Aujourd'hui, la situation, pour moi, de non-transmission est déjà grave. Mais sans le rap, on aurait eu un vide, mais catastrophique.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées. Ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires. Dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares, des ports armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Si tu veux comprendre l'immigration des années 60, il faut écouter les chansons qu'écoutaient les parents. Quel que soit l'angle d'attaque que tu prends, hein, si tu veux prendre l'angle politique et social. Il y a une chanson qui en berbère, c'est « Silhoud Malouzine Saham », c'est « Métro Boulot Dodo ». Et quand tu l'écoutes, tu te dis « Oh !» Il te décrit la vie d'un prolo immigré. Et tu te dis ça, voilà, tous les militants de gauche et d'extrême gauche devraient la connaître. Vous n'allez pas apprendre à l'immigration ce que c'est qu'être prolo. Et ça, c'est ce qu'écoutaient les parents, qui ont été le bruit de fond de socialisation, mais sans forcément qu'on fasse attention aux paroles à l'époque, quoi. Et même si tu prends l'angle des dimensions d'intimité, il y avait Nora, donc, qui était une chanteuse algérienne, qui chantait une chanson donc, de l'immigration, qui chantait une chanson. Moi, je l'ai fredonnée quand j'étais petit, dans l'incapacité de comprendre ce qu'elle racontait, quoi. C'était « Un serpent m'a piqué et m'a laissé avec son enfant, qu'il soit maudit ». C'était toutes ces femmes immigrées, c'était tous les divorces dans l'immigration. C'est-à-dire que le décalage entre l'homme qui était ici, qui faisait venir sa femme et qui la faisait venir dans l'espoir qu'elle allait lui rappeler le pays au même moment où elle arrive ici, elle veut être une femme comme les autres. Donc, elle veut sortir, elle veut... Et donc, la contradiction entre les besoins de l'époux, qui étaient des besoins de sécurité affective, de surtout qu'elle ne bouge pas, etc., et ses besoins à elle. Et elle montrait les contradictions amoureuses, quoi, qu'il y avait au sein des couples qui étaient provoquées. C'est ce que j'appelle les coups invisibles de l'immigration. L'immigration, c'est jamais quelque chose qui se passe, on a un projet, c'est construit, etc. C'est jamais comme ça, hein, ça se paye.
الجزائر تتهول كل وجبة لسي عول قبالة غهوري سول للامي ضبرون جلامي ضبرون الجزائر تتهول كل وجبة لسي عول قبالة غهوري سول للامي ضبرون جلامي ضبرون تترقي متش الماوي عمر دحاجة استيلاوي ونسعانو نزدحنين الهم اللي وولاج الهم اللي عامل مزين أما مغايق باتخ ممدوح حبر رصفر حضور باجر رصفر حضور باجر لمرايف فغل خبار عامل مزين أما مغايق باتخ ممدوح حبر رصفر حضور باجر رصفر حضور باجر لفرق ذي مطي مازال لحزن نمي ضمزال لا وينك الست المال وجل ولا تهون العيبة المرة سمولين بلا الهضرة وريبا لحد نغتا مغرى أمضى ضدك قرداج أمضى ضدك قرداج زيز وقلة مزلاين بلان يبد الملاين أنو حسب سنغ عماين ذو غالي نولاج ذو غالي نولاج سرول الهم صار وسوق ندور واشو شكر سو تاكسي يكرو غبار اللامي ذو بلانج اللامي ذو بلانج سترو للهم صار وسوق ندور واشو شكر سو تاكسي يكرو غبار اللامي ذو بلانج اللامي ذو بلانج ويسعى الحقن الركبة ويسوه لسطلابة فراغ تموت العجبة ذو غلد السوحاج ذو غلد السوحاج موسيقى
Rebonsoir, vous êtes toujours dans La Vie des Nôtres sur Canal Sud 92.2. Et là, vous venez d'écouter un entretien avec Saïd Bouamama qui nous a parlé de son parcours. Et dans son parcours, bien évidemment, il y a toutes les luttes de l'immigration depuis la marche de 83 jusqu'à aujourd'hui. Et moi je trouve que cet entretien il est vraiment hyper précieux, que ça nous apporte un éclairage aussi vraiment précieux sur ce qui s'est passé en fait depuis les années 80 dans les luttes contre le racisme, pour l'égalité, etc. Je trouve qu'aussi il est hyper émouvant à plein d'endroits. Et dans cet entretien, Saïd nous a parlé de différentes organisations, que ce soit au moment de la marche de 83, Convergence 84, etc. Mais aussi des organisations plus récentes, dont le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, le FUIQP, qui existe toujours. Et puis donc moi je voulais un petit peu parler, parce que c'est une organisation dans laquelle j'ai milité quelques années avec Saïd. Et du coup voilà, c'est une organisation qui est vraiment héritière de ces luttes-là, héritière de la marche et de toute la dynamique qu'il y avait autour, de la question de l'autonomie, de la question comme disait Saïd dans l'entretien, de créer une force locale et en même temps de se fédérer au niveau national. Donc c'est une organisation qui a été fondée en 2011 à Lille, et il y a eu plusieurs sections jusqu'à 9 en France. 9 sections en France, donc voilà, ça fonctionnait, où les sections étaient autonomes et on était d'accord avec un certain nombre de points en commun, les 10 points du FUQP, un peu à l'image, c'était complètement inspiré du Black Panther Party. Donc ces 10 points-là que vous pouvez retrouver, il y a un site internet fuiqp.org où il y a ces 10 points, il y a pas mal de textes, il y a aussi du matériel militant avec des affiches, etc. C'est vraiment un site assez riche à aller voir. Et donc ces 10 points, et à partir de ce moment-là, on était plusieurs, fallait qu'on rencontre les autres sections, et puis qu'on soit coopté, et puis on faisait nos agendas selon le contexte local, et puis une fois tous les 3 mois, on se réunissait tous et toutes ensemble, en coordination, pour aussi définir, dire déjà où on était dans nos propres villes, et puis définir un agenda commun sur quelques dates dans l'année, avec des priorités. Et du coup, moi c'est aussi pour ça que ça me parlait vraiment, parce que c'est vrai que des fois dans les organisations nationales, tout est centré un peu à Paris, puis quand on n'habite pas à Paris, on se sent un peu exclu, et puis si c'est que du local, c'est vrai qu'on a l'impression de pas avoir autant d'impact au niveau national. Donc voilà, et qu'il y a autre chose dans cette organisation, moi, qui me parlait vraiment beaucoup, c'était que ça alliait à la fois les luttes de l'immigration et des quartiers populaires en France, mais aussi les luttes anticoloniales et les luttes anti-impérialistes, comment la France, les guerres que la France mène, la question de la France-Afrique, le pillage des ressources, etc. Et donc, lier ces deux questions, je trouvais ça aussi hyper important. Donc moi, c'est vraiment une mes plus belles expériences militantes. Parce qu'aussi, ce que j'ai trouvé dans le FUQP, c'était vraiment quelque chose d'hyper chaleureux. Enfin, au-delà des positions politiques avec lesquelles j'étais d'accord, c'était aussi des gens que j'avais plaisir, avec qui j'avais plaisir de militer, que j'avais plaisir de retrouver tous les 3 mois, tous les 6 mois. Du coup, j'avais envie de vous raconter un peu cette expérience. Et je vais laisser la parole à mes camarades pour qu'elle vous parle un peu de cet entretien.
D'accord. Moi, cet entretien aussi, il m'a beaucoup touchée et il m'a fait penser à plein de choses. Enfin, ça a résonné sur plein de choses, en fait, qui me questionnent, qui m'inspirent aussi en ce moment. Donc, je voulais parler d'abord de cette question de la mémoire des luttes qui est rompue. Et je reprends une phrase qu'il a dit dans l'entretien que j'ai noté, c'est « on reprend pas l'histoire là où il l'avait laissée », en parlant des anciens, « mais là où il l'avait commencé ». Et un peu comment en fait cette transmission, elle s'est pas faite, ce qui fait qu'en fait on est toujours en train de recommencer du début, comme s'il n'y avait jamais eu une histoire des luttes anticoloniales, de l'immigration, etc. Et en fait, ça m'a refait penser au moment où en fait, je me suis rendu compte de ça. C'était il y a quelques années pendant la lutte contre la loi travail. Donc moi j'étais à la fac et donc un peu impliquée dans la lutte et tout. Et en fait j'avais été impressionnée par la manière dont la mémoire des luttes, elle était, enfin, en tout cas des luttes syndicales, elle était transmise dans les syndicats étudiants. Et comment, en fait, les syndicats, ils étaient garants de cette mémoire. Et du coup, tu avais des jeunes qui avaient peut-être 19 ans dans les syndicats, mais qui avaient toutes les expériences de la LRU qui avait eu lieu 10 ans plus tôt. Peut-être pas 10 ans, mais en tout cas, eux, ils n'étaient pas présents. Et comment ça avait été gardé. Et je me suis dit, mais en fait, non, on n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas ça? Et pourquoi on n'a pas... Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, cette question du FUIQP, je pense, ou des organisations, en tout cas, qui se sont créées avec cette volonté-là, en fait, de dire, bah, en fait, nous aussi, il faut qu'on ait nos propres espaces où on peut transmettre tout ce qu'on a, toutes ces expériences, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait, et pas devoir constamment recommencer. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça? Et en fait, je pense que c'est aussi parce que c'est... Enfin, on n'est pas, c'est des choses qui ne sont pas considérées comme légitimes et qui ont été aussi empêchées, entre guillemets, ou en tout cas invisibilisées et pas du tout valorisées. Et que c'est aussi une manière de créer des ruptures chez nous, quoi. Et parce que quand on coupe les gens de leur passé, ben, en fait, on nous fait croire qu'on n'a pas d'histoire, quoi. Et voilà. Du coup, ça m'a fait vachement réfléchir. L'autre chose qui me parle vachement dans ce que Saïd raconte, c'est aussi cette question de l'éducation et de l'éducation populaire. Parce que voilà, c'est aussi les choses où moi je travaille. En tout cas, j'ai pas mal travaillé dans le milieu de l'éducation populaire. C'est des choses auxquelles j'essaie de réfléchir et de se rendre compte aussi de ça, de comment, en fait... au lieu de reproduire des pratiques d'éducation populaire où en fait c'est toujours dans la blanchité, quoi, c'est toujours en fait il faut éduquer les autres ou il faut en tout cas les cadrer ou leur apporter des choses, et en fait plutôt comme il raconte Saïd, un peu ce truc de non, en fait ce qu'il nous faut c'est des espaces d'auto-formation, c'est des lieux juste où on se rencontre et on s'organise et on définit selon notre propre modalité. Et en fait, c'est vrai que quand on a ces espaces-là, enfin, je veux dire, quand on a fait l'expérience de ça, de l'auto-organisation, on se rend compte que les choses, elles s'organisent pas forcément selon les modalités dominantes, c'est-à-dire que c'est d'autres temporalités, c'est d'autres manières de faire, et en fait, ça, pour moi, c'est aussi comme ça qu'on décolonise, quoi, et qu'on se réapproprie nos propres manières de faire, et voilà. Bon, c'est un peu en vrac, mais c'est tout ce que ça m'a fait un peu penser l'écoute de cet entretien.
Je vais rebondir dessus aussi. Moi, je crois qu'il me remue énormément. Il me touche beaucoup à plein d'endroits différents. En plus, j'étais là le jour de l'interview et en fait, ça me fait encore un truc différent là d'écouter, de le réécouter ce soir. Je ne saurais même pas par où commencer. Je vais essayer de prendre des petites bribes un peu de en quoi ça me fait écho et à quoi ça me fait résonance. Déjà, ce truc de reconnaître nos expertises et nos savoirs populaires tout le temps. Moi, je sais que c'est un truc dans ma vie qui m'a fait énormément de bien à partir du moment où je me suis dit « Ah, il y a un truc que je sais, on essaye de m'apprendre selon des codes dominants, etc. Mais ça, je le sais, ça, je l'ai déjà vécu, etc. » Et valoriser ces savoirs-là, comme on peut le faire avec les générations qui viennent après, etc., je trouve que c'est quelque chose d'hyper précieux et qui m'a permis à plein d'endroits de relever la tête et puis d'être digne, de marcher droit. Et un truc qui me touche particulièrement, c'est cette notion de porte-plume dont il parle. Et je me souviens notamment d'une fois où j'étais chez ma grand-mère, qui habitait en Palau, et je lui demandais un peu de me raconter un peu son histoire de son arrivée en France, de me parler un petit peu de comment était en Palau avant, et puis sa vie à elle, et à mon grand-père, et tout et tout. Et ma grand-mère m'a répondu, si j'avais été... en arabe, on dit « qaray ». Si j'avais étudié, voilà, si je savais lire et écrire, j'en aurais des choses à raconter. Et là, ça m'a confrontée à moi-même avec ce truc et la promesse que je me suis faite de vas-y, en fait, moi, je sais écrire, je sais lire, je sais faire un montage radio, je sais faire de la vidéo, je sais si ça. Et en fait, j'ai envie de mettre tout ce savoir-là au service de ma grand-mère, de ma mère, des personnes comme ça, tout ce que j'ai acquis, par exemple en allant à la fac, je savais très bien d'avance que jamais de la vie je deviendrai riche ou j'aurai de l'argent à repartager. Et les seules richesses que j'ai et que je peux cumuler, c'est mes savoirs. Et du coup, c'est tout ça que j'ai envie de réinvestir pour les miens, pour les nôtres. Et de la même manière, quand il parle de ces deux femmes qui sont venues le voir en lui disant de raconter aussi l'histoire, c'est quoi être femme de mineur. Moi, ça m'a fait penser à une fois où je parlais avec ma mère et où je lui disais... On parlait de mon père qui est militant. Et pendant très longtemps, j'avais une espèce d'idéal vis-à-vis de mon père, qui était un militant anard tunisien, tout ça. Et puis j'avais envie de marcher dans son sillon, et puis c'était mort que je lâche, etc. Et comme je survalorisais ce qu'était mon père, puisqu'il incarnait cette figure de militant-là, mais ne reconnaissait pas tout ce que ma mère pouvait avoir de puissance et de force là-dedans. Et un jour, en parlant avec elle, j'ai calculé ce truc de... Et elle me l'a dit, elle, texto, de... Myriam, tu sais pas qu'est-ce que c'est aussi d'être femme de militant. Et je sais pas, ça m'a trop fait cogiter et tout. Et pareil, je me suis fait la promesse ce jour-là qu'un jour, je raconterai l'histoire de ma mère comme celle de plein de daronnes, de plein de sœurs. Par exemple, toutes les sœurs qui vont au parloir, toutes les mamans qui voient leur fils tomber ou autre, etc. Et voilà. Bon, c'est un peu fouillé aussi, mais je crois que je suis hyper émue. Et puis, quitte à parler d'espaces concrets, de choses concrètes pour se faire du bien, moi, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver dans cette émission et de faire cette émission avec vous.
Ouais, moi aussi, sur la question, du coup, ce que tu dis, ça me rappelle aussi... récemment, je parlais un peu avec ma grand-mère. Parce que dans le cadre aussi, parce que je fais des études et qu'en ce moment, je travaille un peu sur l'histoire de la colonisation. D'ailleurs, petite parenthèse, mais aussi, ça me parle vachement ce qu'il dit, Saïd, dans l'entretien aussi, de dire il faut aussi des apports, de savoir qu'on ne peut pas inventer, c'est-à-dire que, en fait, l'histoire et ce qui s'est passé, l'histoire coloniale, en fait, il s'est passé des choses, et c'est aussi des savoirs qu'il faut aller chercher et qui sont importants à transmettre. Donc voilà, dans le cadre de ces études, j'avais envie de discuter avec ma grand-mère de comment elle a vécu, vu qu'elle a vécu aussi pendant la période du protectorat au Maroc, donc colonial, comment elle vivait à cette époque-là. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Non, mais moi, je sais rien sur la colonisation ou la résistance. Moi, je sais rien de tout ça. » Et je lui ai dit, non, mais en fait, on s'en fout, je veux juste que tu me racontes comment vous viviez et tout ça. Et en fait, elle commence à me raconter. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'en me racontant juste sa vie de tous les jours, en fait, ça parle de ouf de la colonisation, quoi, et de ce qui se passe et comment les gens y vivaient dans les campagnes, qu'en fait, elle travaillait pour les colons et que eux, ils avaient des petits baraquements sur les terres des colons et que toutes les familles, elles vivaient dans des petits baraquements. Et qui devait aller taffer dans les champs pour les mettre, entre guillemets, presque. Et en fait, en racontant tout ça, je me suis dit, ouais, c'est quand même ouf, toutes ces histoires qu'il faut récupérer. Tu veux rajouter un truc? Je continue. Tu veux rajouter un truc avant de passer à la fin?
Non, j'aurais plein de choses à rajouter, mais il ne reste pas assez de temps pour dire toutes ces choses.
Ok. Du coup, on va bientôt terminer l'émission. On a un peu hésité sur la musique, le morceau qu'on voulait dire mettre à la fin. À la base, on s'était dit qu'on passerait le morceau de Zep, Nique la France, parce que Saïd Bouamama est co-auteur de cette chanson. Qu'il y a une petite histoire derrière, c'est quand même Saïd Bouamama et l'autre Saïdou de Zep ont été mis en examen pour injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion, pour racisme anti-blanc pratiquement dans cette chanson qui parlait de blanc de souche, je crois, aux français de souche. Je ne sais plus c'était quoi le terme exact dans la chanson. Donc il y a une plainte contre eux de la Griff, qui est une association en gros de fachos, quoi. De suprémacistes blancs. Et donc voilà, donc c'est un procès qui a duré assez longtemps, qui a été assez compliqué et tout, mais finalement, après divers rebondissements, ils ont été relaxés. Donc voilà, on pensait mettre cette chanson, mais finalement, comme c'était la semaine en soutien au peuple kanak à Canal Sud, donc tous les jours il y a une programmation spéciale voilà, sur ce qui se passe en ce moment en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Donc on s'est dit qu'on mettrait aussi un peu en référence à la fin de l'entretien, où Saïd il parle du rap comme vraiment un des modes de transmission des luttes anticoloniales et des luttes de l'immigration. Donc on s'est dit qu'on passerait un morceau de Medine qui s'appelle Ataï, donc qui parle, voilà, qui raconte un peu à travers l'histoire d'un personnage, l'histoire de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky. Voilà. D'une personne, tout à fait. Tu veux rajouter un truc?
Bah, je peux juste rajouter que ce morceau est tiré de l'album Storyteller et on a une phrase de cet album dans notre générique qu'on ne dira jamais assez, c'est « L'histoire est racontée par une bande de mythos ».
Voilà.
Vous avez 2 heures. Et on se retrouve la prochaine.
Ah oui, vas-y.
La prochaine fois, le mardi 3 novembre à 20h sur Canal Sud 92.2. Et bientôt, très très bientôt, on vous le promet, on se retrouve sur Spotify, sur toutes les applis de podcast, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Et on inventera même des applications pour nous écouter spécialement. À bientôt.
Sur une terre de pas plus de 40 000 âmes, il est un guerrier qu'on appelait Ataï, cultivateur de banyan et d'igname, chef comalé du peuple des Kanaks, obtenu son titre malgré son jeune âge, dans le respect des coutumes ancestrales, gardien d'une quelques cinquantaine de cases, au nord de Nouméa, la capitale. Au contact des missionnaires, il apprend à parler le français. Une éducation complémentaire de celle dispensée par un sorcier. Apprendre à manier la fronde, dans la nature se fondre, devenir une ombre, bien entretenir les tombes sur ce qu'on appelle maintenant la terre des colons. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont ici pour l'amour de la croix. Pourquoi nous repoussent-ils de nos forêts moites si ce n'est pour le commerce du bois? Ils sont arrivés ici avec leur bétail pour y construire des prisons et des bagnes, en pensant que nous étions des cannibales, installés partout des postes de gendarmes. Ils ont fait de nos femmes leurs femmes de ménage, dans le meilleur des cas quand elles servent pas d'esclaves. Refusent de nous les rendre quand on les réclame, c'est ce qui arrivera à la dénommée Katia. On a tous attendu son retour, mais le maître la séquestre. Quand un membre est amputé au groupe, c'est tout le village qui s'inquiète. Sortez les casse-têtes, aiguisez les sagaies. Mélanésiens, enduisez vos corps de la suie de bancouliers. Le sang va couler. Un raid de 3 personnes, Ataï et 2 autres hommes, au secours d'une autochtone, entre les griffes de ce caldoche. Une fois dans le corps de ferme, ils croisent des bêtes à cornes, ceux qui piétinent leurs ancêtres avec leurs sabots venus d'Europe. Une cheminée qui fume, ils passent la clôture. Ataï n'hésite plus, il garde en tête l'honneur de sa tribu. Fracture la porte de son corps à 2 minutes, étouffe le feu pour que la lumière diminue. Je sais clair qu'à la lueur d'une demi-lune, engage le combat en moins d'une minute. Maître colon de la Calédonie, tenant un sabre de gendarmerie, déterminé à bien garder la fille qui lui sert d'esclave sexuel toutes les nuits. Tranche l'atmosphère de sa lame émoussée, frappe vers Ataï des coups désordonnés. Mais le Kanak se déplace comme vole la roussette, le combat rapproché c'est sa grande recette. Coup de silette sur le haut de la tête, la machette sans casque dans le corps, le maître tombe à terre de tout son être et Ataï emmène la jeune fille sous son aile. Il laissera les flammes vers le reste, un feu si grand qui touche le ciel. Mais la riposte viendra de l'est, plus vite que ne pense le chef. Son absence a laissé son village sans protection. Au loin, les détonations de fusils à piston. Ses plantes de pied accélèrent sur le sentier pierreux. Il voit son village et les soldats qui les forcent à sortir de chez eux. Abandonne le groupe, fonce dans la brousse, accourt pour mieux pouvoir briser leurs troupes. Tout autour est trouble, l'horizon se brouille, le cœur qui s'emballe, les idées qui s'embrouillent. Ataï a dégainé la sagaie, il lance sa lance sur l'assaillant. La bataille a débuté, là ça y est, il combat les traîtres tout enseignant. Mais un ennemi lui semble familier, serait-ce un Kanak de naissance qui au colon blanc se serait rallié et qui lui tranche le cou au nom de la France. Ataï fut décapité, son peuple colonisé.
son crâne fut exposé dans les musées comme un trophée. Enfant du destin, enfant de la guerre, enfant du destin, enfant de la guerre. Komale, Tiendanit, Kanala Naketi, Kouaoua, Oroé, Neku, Hazareux et Kikoué. Enfant du destin,